Imaginez un instant, un homme dans un tout petit aéronef, un ULM. Il flotte dans le ciel. Sauf qu'il n'est pas seul. Il est escorté même, enveloppé par une formation d'oies sauvages. Et le plus fou, c'est qu'il ne les suit pas. Non, il les guide. C'est lui le leader.
C'est ça. Cette image, c'est le point de départ de notre analyse aujourd'hui sur l'histoire de Christian Moulec. On le surnomme souvent l'homme-oiseau.
Le moiseau, oui.
Et pour ça, on a vraiment épluché pas mal de documents qui viennent de son organisation, qui racontent tout son parcours. Notre but, c'est de décortiquer un peu cette obsession, en fait.
Une obsession, le mot est bien choisi.
Comment un rêve un peu fou, né d'une inquiétude pour la nature, est devenu une aventure scientifique, puis une épopée au cinéma, et finalement une expérience partagée.
Alors ça commence officiellement en 1995, mais j'imagine que l'idée, elle, est bien plus ancienne. C'était quoi l'étincelle? Parce qu'on se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais apprendre aux oies à migrer avec mon ULM ».
Non, et ce qui est vraiment fondamental à comprendre, c'est que ça n'a jamais été pour le spectacle. Jamais. La mission de départ, elle était très concrète. Elle était double même.
Ah oui. D'un côté, il voulait sensibiliser le public, voilà, à la fragilité des oiseaux migrateurs. Et de l'autre, il avait un objectif scientifique hyper précis. Réintroduire l'oie naine à front blanc en Suède. C'est une espèce qui était au bord de l'extinction.
D'accord, donc un but de conservation pur et dur. Mais comment on fait le lien entre sauver une espèce et voler en ULM avec elle?
Le saut est énorme quand même.
Le saut est énorme, mais il repose sur un concept scientifique qui est juste fascinant, l'imprégnation. Moulec, il a toujours été passionné par les oiseaux et il a été bouleversé par les travaux de Konrad Lorenz.
Ah oui, l'éthologue. C'est lui qui a prouvé qu'un oison, à l'éclosion, considère la première chose mobile qu'il voit comme sa mère.
Exactement, c'est indélébile. C'est comme un disque dur vierge, et la première image, paf, elle devient le système d'exploitation pour toute la vie. Et Laurence a montré qu'un humain pouvait être cette mère.
Une mère qui marche, donc.
Voilà. Ouais. Et en 1985, Moulec y tombe sur un article qui parle des efforts d'un ornithologue suédois pour sauver cette fameuse oie naine. Et là, c'est l'étincelle. Mmh. C'est l'intuition de génie.
Il se dit. Ouais.
Laurence a été une mère qui marche. Mais si cette mère, elle avait des ailes et un moteur, s'il devenait, lui et son ULM, la figure maternelle, il pourrait leur apprendre une nouvelle route de migration, une route plus sûre. C'est vertigineux comme idée.
Mais entre l'avoir et la réaliser, je suppose que le chemin a été long. Surtout quand on annonce ça à ses collègues.
Extrêmement long et solitaire. Son métier à l'époque, c'est météorologiste. Ça l'envoie en 1988 sur l'île d'Amsterdam, au milieu de l'océan Indien.
Ah oui, je vois.
Là-bas, il étudie les albatros, mais quand il parle de son projet, même timidement, ses collègues scientifiques le prennent pour un doudingue. Vraiment.
C'est une traversée du désert, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on persévère face à ça?
Mais les sources parlent d'une conviction, mais inébranlable. Il était persuadé que le lien biologique qu'il voulait créer était plus fort que tout. Il n'a jamais douté que les oiseaux le suivraient. La question, c'était le comment, la technique. Et c'est son retour en France, dans le Cantal, en 1993, qui va tout débloquer.
Et on arrive à ce fameux premier vol de 1995, le moment où le rêve devient réel.
C'est le moment charnière. Avec sa compagne Paola, qu'il appelle la complice de cette fabuleuse aventure, il élève ses deux premières oies bernaches, Fifi et Loulou.
Fifi et Loulou.
Et ça marche. Il décolle et elles le suivent, instinctivement. Il décrit dans ses notes un moment magique, féerique, presque surnaturel. C'est là qu'il tend la main et caresse pour la première fois un oiseau. En plein vol.
Une image pareille, ça ne peut pas rester secret très longtemps. Les appareils photo ont dû commencer à crépiter, non?
Exactement. Et c'est là que Paola joue un rôle, mais fondamental. Ce n'est pas juste un soutien, c'est elle qui immortalise ces moments. Elle prend des photos incroyables, il les envoie un peu au culot à Paris Match, et...
Et ça prend.
Le magazine leur consacre 8 pages.
8 pages.
Du jour au lendemain, le doudingue devient un phénomène mondial. Et là, forcément...
Le cinéma frappe à la porte.
Absolument. Dès 1996, il fait une première migration filmée pour un documentaire. Et en 1997, c'est Jacques Perrin qu'il contacte pour Le Peuple Migrateur.
Le film culte. Il aurait pu se lancer là-dedans, devenir le spécialiste mondial des prises de vue avec les oiseaux. Il aurait pu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est là que l'histoire est incroyable. Il a toujours son objectif de départ en tête, les oies naines. Ah oui, la mission de sauvetage.
Voilà. Au lieu de surfer sur ce succès, il quitte la production du film de Perrin. Il plaque tout pour se consacrer à son rêve initial.
C'est fou.
Il retourne à sa mission et en 1999, avec Paola, il se lance dans la vraie, la grande migration. Il guide 33 oies naines de la Scandinavie jusqu'à une réserve en Allemagne.
33. Mais comment on gère un groupe pareil en plein vol? S'il y en a une qui décide de partir à droite, on fait comment? C'est fascinant. Il en parle. Il dit qu'il ne volait pas avec une masse, mais avec 33 individus. Chaque oie avait son caractère. La meneuse, la suiveuse, la peureuse, la tricheuse qui coupe les virages.
Exactement. Il devait être à la fois leader, repère, protecteur. Pour chacune. Et cette aventure-là, elle a elle-même inspiré un film.
Donne-moi des ailes.
C'est ça. Il en a écrit le scénario original. Il y raconte sa propre histoire, mais en imaginant que c'est son 6 qui fait le voyage.
Pourquoi ce changement?
Parce qu'au moment de la vraie migration, Paola et Guéon sentent de leur premier enfant. C'est une manière de transmettre. Et son travail finit par être reconnu au plus haut niveau. Il travaille avec la BBC sur la série Earth's Flight et ça lui vaut un Emmy Award à New York. Pas mal pour le doudingue.
Ce qui me frappe, c'est le décalage entre l'image poétique et la réalité. Un ULM, c'est bruyant. Ça sent l'essence. Comment les oiseaux gèrent ça?
Excellente question. Pour le bruit, c'est justement toute la magie de l'imprégnation. Le son du moteur, pour eux, c'est le cri de leur mère. Ça fait partie de leur monde depuis la naissance.
D'accord, c'est leur normalité.
Voilà. Et pour les espèces, les sources sont très claires. On parle de 17 espèces différentes. Des oies, des bernaches, des cygnes, des grues. Ce sont des animaux sauvages, de pure race, pas des animaux de compagnie.
C'est important de le préciser. Et c'est là que l'histoire, déjà incroyable, bascule dans le presque mystique, avec des coïncidences.
Ah, les synchronicités, comme ils les appellent. C'est une partie de l'histoire qui est folle. Au moment exact où ils mettent au point sa technique en Europe, un Canadien, William Leishman, faisait la même chose en Amérique.
Sans se connaître?
Absolument pas. C'est l'histoire qui a inspiré le film « L'envolée sauvage ». Mais attendez, ce n'est pas tout.
Il y a encore.
La femme de William Leishman, au Canada, elle s'appelait aussi Paola.
Non, c'est une blague.
Ce n'est pas une blague, et ce n'est pas fini. L'ornithologue suédois qui supervise le projet de Moulek et son homologue américain qui supervise Leishman...
Ne me dites pas qu'ils...
Ils se sont rendus compte qu'ils étaient cousins, perdus de vue depuis l'enfance. Ils se sont retrouvés grâce à ces deux projets miroirs nés à des milliers de kilomètres de distance.
C'est statistiquement impossible. Comment il interprète ça, lui, hein?
Lui, il aime bien lier ça à des théories comme celle des champs morphiques. L'idée qu'une sorte de conscience collective existe dans la nature, que l'idée était dans l'air, prête à être cueillie en même temps à plusieurs endroits.
Qu'on y croit ou pas, c'est troublant. C'est très troublant. Il adore citer Einstein, lui. Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Et aujourd'hui, ce rêve qu'il a porté tout seul, il le partage. Ce n'est plus réservé aux scientifiques ou aux cinéastes.
C'est ça, la dernière étape. Il propose des vols au public, dans le Cantal. L'expérience dure environ 35-40 minutes. Mais quand on lit les témoignages, ce n'est pas un simple baptême de l'air.
Qu'est-ce que les gens disent?
Ils utilisent des mots très forts. Moment suspendu hors du temps. Communion totale avec la nature.
Expérience qui change une vie.
C'est une belle histoire, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne une sorte d'attraction touristique, un peu déconnectée de la mission de conservation du début?
C'est la question cruciale. Et c'est là que la boucle se referme de manière magistrale. L'argent généré par ces vols, il ne sert pas à l'enrichir. Il est directement réinvesti pour financer des programmes de reproduction d'espèces menacées.
Ah, d'accord.
Autrement dit, chaque personne qui vit cette expérience contribue directement à la mission scientifique qui a tout commencé il y a 30 ans. Le spectacle finance la conservation.
Donc, si on résume, on part d'une inquiétude écologique. Ça donne naissance à une technique de migration pionnière, qui est ensuite popularisée par le cinéma, pour finalement devenir une expérience partagée qui, elle, finance la mission de départ.
C'est un cercle vertueux complet. C'est une démonstration incroyable de la façon dont la passion d'une seule personne peut changer le destin de centaines d'oiseaux. Et aussi, notre propre regard sur le monde sauvage. Christian Moulek cite souvent mon phrase de Victor Hugo, « Le beau est plus utile que l'utile ». Son projet a commencé avec un but très utile, très pragmatique, sauver une espèce. Aujourd'hui, c'est une source d'émerveillement et de beauté pure. Et ça nous laisse avec une question de fond, je trouve. À notre époque, on cherche désespérément des solutions techniques, pragmatiques, aux crises écologiques. Mais quel est le véritable pouvoir de l'émerveillement ? Est-ce que le fait de vivre une expérience d'une beauté à couper le souffle, de toucher du doigt le sauvage, n'est pas au final le moteur le plus puissant, le plus utile pour nous donner l'envie, mais une envie viscérale, de protéger notre planète ?